Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Vous allez bien ce matin?
Très bien, vous-même.
Oui, alors vous allez nous parler des internationaux de tennis du Canada.
L'Omnium Banque nationale présenté par Rogers, pour être précis, c'est un très long nom.
Oui,
ça prend beaucoup de temps.
Et d'ailleurs, ça a changé souvent de nom, hein, cet Omnium. Vous allez peut-être nous en parler un peu.
Bien, ça a changé effectivement très souvent. Ça fait pas très longtemps qu'on l'appelle l'Omnium Banque nationale présenté par Rogers, mais le tournoi en lui-même des internationaux du Canada, c'est le deuxième plus vieux tournoi de tennis au monde. Derrière Wimbledon, mais devant les internationaux des États-Unis par quelques semaines, les internationaux de France, bon, évidemment, en termes de prestige, ça se compare pas, mais si on parle seulement en termes d'âge, les internationaux du Canada arrivent deuxièmes. Le premier tournoi a été présenté à Toronto en 1881, et c'est un Sherbrookeois qui s'appelait Isidore Frederick L. Mute qui l'a emporté. Il était Québécois de naissance, il a vécu presque toute sa vie en Ontario. Il est considéré comme un des grands bâtisseurs du tennis canadien. Il a été parmi les premiers intronisés au Temple de la renommée de Tennis Canada, même si on s'entend que ce n'est pas un nom très, très connu en général, même de par les amateurs, les amatrices de tennis. Au départ, le tournoi est seulement pour les hommes. On ajoute un volet féminin en 1892, donc 11 ans d'écart entre les deux, c'est pas si mal. Le tournoi est présenté en Ontario dans les premières années et la grande majorité des joueurs et des joueuses viennent du Canada avec un certain nombre d'Américains qui s'ajoutent. Ça a pris presque 30 ans avant qu'on ait un premier champion qui n'était pas nord-américain.
Je m'excuse, Marcel, est-ce qu'on parlait quand même de tennis international?
Il y avait quelques concurrents. Évidemment, j'ai pas vu la liste de tous les participants. Mm-hmm. Mais si on regarde la liste vraiment des gagnantes, c'était Canada-États-Unis, vraiment jusqu'en 1919, on a un participant japonais qui gagne, qui vivait aux États-Unis, si j'ai bien compris. Donc, c'était vraiment un championnat nord-américain, plus que vraiment des internationaux à ce moment-là, dans les premières décennies. Évidemment, on s'entend que dans les années 1880, partir de l'Australie, venir jouer au Canada, ça coûtait une fortune, ça prenait des semaines, bref, c'était quand même plus local que c'est devenu par la suite. En 1920, on s'est dit que si on voulait faire rayonner le sport, il faudrait peut-être sortir le tournoi d'Ontario et le promener dans différentes villes du pays. Et c'est en 1940 que le championnat du Canada a été présenté au Québec pour la première fois, mais pas à Montréal. C'est dans la belle ville de Québec que le tournoi a été joué cette année-là. Au total, les internationaux du Canada ont été présentés à Québec 4 fois et à Montréal 3 fois dans les années 1940, 1950 et 1960. Mais à ce moment-là, les tournois masculins et féminins ont lieu dans la même ville. À quel moment adopte-t-on la formule « les hommes à Toronto, les femmes à Montréal » ou vice-versa? Bien, les internationaux du Canada vont changer de poil beaucoup dans les années 1970. Avant ça, on ne disposait pas de stade, comme par exemple le stade IGA. Quand on présentait la compétition à Québec, c'était joué au Club des employés civils de Québec. Et leur terrain était très bien situé, merci, ils étaient à côté au rempart, tout juste à côté de la Porte Saint-Louis et directement en face de l'hôtel du Parlement.
Ah bon, quand même!
D'ailleurs, il y a une photo assez célèbre qui circule, si vous allez voir sur Google, ça date des années 1960, on voit un match joué sur les terrains des employés civils, les estrades sont remplies et vous avez des gens debout sur les remparts en train de suivre l'action. Je vous encourage à aller voir ça si vous avez une chance. Et à Montréal, on jouait dans un club privé du quartier Notre-Dame-de-Grâce et j'ai pas vu de chiffres sur le nombre de spectateurs qu'on pouvait asseoir dans les gradins de ces clubs-là, me basant sur les images, je vous dirais peut-être 1000, 1500, probablement pas plus que ça. Ça avait un petit quelque chose de très artisanal. C'est dans les années 1970 qu'on s'est dit il faudrait des installations plus professionnelles, plus modernes et surtout qui permettraient de générer plus de revenus. On a construit le Centre national de tennis à Toronto, précurseur du complexe où le tournoi a lieu de nos jours. Là, on avait un vrai stade autour du cours central. Il semble bien que c'est la compagnie de cigarettes qui commanditait le tournoi à la fin des années 1970 qui a insisté pour que la compétition soit partagée entre les deux grandes villes du pays. Question de visibilité, je présume. Mais là, il n'était pas question de retourner jouer sur les terrains d'un club privé. Ça prenait des installations de premier plan pour accueillir le tournoi à Montréal. On a pensé au Parc La Fontaine, au Parc Maisonneuve, mais finalement, on a décidé de récupérer le stade de baseball du Parc Jarry, où jouaient les Expos jusqu'à leur déménagement au stade olympique, et on l'a transformé en stade de tennis, C'est en 1981 que le tournoi masculin a été présenté à Montréal pour la première fois. On jouait à Toronto cette année-là. Les femmes, disent bien, jouaient à Toronto cette année-là. Et on utilise la formule depuis. Cette transition-là de tournoi artisanal à compétition moderne d'envergure survient à la même période où le niveau de compétition augmente. Il y a une date qui est très importante dans l'histoire du tennis, c'est 1968, alors que commence l'ère open dans le sport. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'avant cette date-là, les amateurs et les professionnels ne jouaient pas ensemble. Les tournois du Grand Chelem, par exemple, étaient réservés aux amateurs et il n'y avait pas de bourse à l'enjeu. Les organisateurs vendaient des billets, mais les joueurs et les joueuses jouaient pour la beauté du sport et le dépassement de soi.
Et là, là, ça a changé, hein?
Ben, ça a changé, évidemment, mais c'est normal que les joueurs et les joueuses reçoivent une partie des revenus qu'ils génèrent eux et elles-mêmes. Mais à ce moment-là, dès que vous acceptiez de l'argent pour jouer, vous deveniez professionnel et vous ne pouviez plus participer à des tournois comme les internationaux du Canada qui étaient réservés aux amateurs. En 1968, on se débarrasse de cette règle-là, les tournois sont ouverts à tout le monde, et c'est depuis ce temps-là que vraiment les meilleurs joueurs et joueuses viennent régulièrement jouer chez nous, attirés notamment par les bourses. Il y a 10 millions de dollars à l'enjeu cette semaine, si on combine les hommes et les femmes. La première fois qu'on a offert des bourses aux internationaux du Canada, c'était en 1969. La bourse totale, pas celle qui allait aux gagnants, était de 9 000 $. Il fallait commencer quelque part. Et les dames, ben, elles ont continué à jouer pour la beauté du sport jusqu'en 1975, avant qu'on leur remette de l'argent pour leur participation, dépendant jusqu'où elles se rendent dans le tournoi.
Marcel, là, j'ai une question par rapport aux bourses. Je ne voudrais pas vous piéger, mais est-ce que c'est encore le cas que les femmes n'ont pas la parité dans les internationaux du Canada?
Là, j'ai vu les chiffres, je ne les ai pas précisément en mémoire, mais je pense que la répartition de mon 10 millions pour cette année, c'est 7 millions pour les hommes, 3 pour les femmes. Mm. Mais on aspire à la parité, je pense, d'ici 2026 aux internationaux du Canada. Je m'avance en disant 2026, mais j'ai vu qu'on avait annoncé officiellement qu'on allait, que les montants offerts aux unes et aux autres seraient les mêmes là, d'ici les prochaines années.
Je ne voulais pas vous piéger, hein. C'est juste que c'était vraiment une question. Depuis plusieurs années, on en parle de cette non-parité.
Bien, littéralement, vous voyez, depuis 1969, il y avait une non-parité, alors que certains, les hommes gagnaient de l'argent et les dames non. Donc, c'est un problème récurrent là, dans le monde du tennis et dans le monde du sport en général, je vous dirais. Ceci dit, je reviens à ma professionnalisation du sport. Depuis qu'on a les meilleurs au monde qui participent aux internationaux du Canada, il faut le dire, la récolte est assez mince pour les joueurs et les joueuses canadiens. Il y a eu Bianca Andreescu qui a remporté le simple féminin en 2019. Il y avait eu Sébastien Larrault, Daniel Nestor, champion du double en 2000. Mais les joueurs et joueuses canadiens, québécois, avaient plus de succès à l'époque du tennis amateur. On a eu 4 Québécois qui ont remporté le simple messieurs entre les années 1930 et 1950. Marcel Rainville, Henri Rochon, Brendan Macken, c'était tous des Montréalais. Et surtout, il y a eu Robert Bédard qui a remporté le simple 3 fois en 4 ans, dont une fois où il avait battu Henri Rochon en finale à Québec. Il devait y avoir toute une ambiance pour ce match-là. Bédard, né à Saint-Hyacinthe, qui a passé une bonne partie de sa vie à Sherbrooke, c'est probablement le plus grand joueur québécois de l'ère amateur. Il est aussi le dernier Canadien à avoir remporté les internationaux du Canada en simple masculin en 1958. Au cours des dernières années, le tournoi a été dominé, comme plusieurs autres tournois, par le Big Three. 5 titres pour Nadal, 4 pour Djokovic, 2 pour Federer. J'ajoute Andy Murray qui a gagné 3 fois. C'est pas mal toujours les mêmes noms qui reviennent. Le détenteur du record pour le plus de victoires au Canada, c'est Ivan Lendl, autrefois de la Tchécoslovaquie. 6. Chez les dames, Monica Seles a gagné 4 années consécutives. Chris Evert a gagné 4 fois aussi. Et je ne peux pas passer sous silence en terminant ce qu'a fait Martina Navratilova chez nous. 3 titres en simple, 3 en double au Canada dans les années 1980. Elle a pris une petite pause de 20 ans et est revenue gagner 3 autres titres en double, dont le dernier à quelques semaines de ses 50 ans dans les années 2000. On a tendance à surutiliser, Francine, le terme « légende » dans le monde du sport. Martina Navratilova est véritablement une légende. 355 tournois remportés au total au cours de sa carrière.
Hé hey là là, oui, vous avez bien raison, Marcel. C'était vraiment intéressant, hein? Ça nous replace un petit peu dans le contexte, surtout qu'on vit présentement ces internationaux et à Toronto et à Montréal. Mais merci beaucoup et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.